Je vais inviter à notre frère, pasteur ancien, Jean-Luc, pour le message ce matin.
Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Jésus-Christ a dit, « Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » C'est donc Jésus qui bâtit son église. Alors nous avons l'assurance que ni les machinations des hommes, ni les plans diaboliques, ni les dominations, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni les êtres d'en bas, rien ne peut détruire l'église du Christ. Tout et absolument tout se déroule selon le plan du Maître souverain. Dans Actes chapitre 1 au verset 8, Jésus a déclaré à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Recevoir le Saint-Esprit et être témoin sont indissociables. Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire un one-man show. Et retenons bien cet enchaînement. Jésus a dit, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, on a vu que dans Actes chapitre 2, comme le Seigneur l'avait promis, les disciples ont bel et bien reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et ceux qui ont cru après eux, ceux qui ont cru après ont reçu aussi le Saint-Esprit. Et il convient également de noter que les disciples ont vraiment été témoins à Jérusalem, au point où le nombre de croyants s'est accru. Les nouveaux croyants se sont multipliés. On est passé à 3000, 5000 et plus encore. D'ailleurs, le propos même du souverain sacrificateur en colère montre que les disciples ont été des témoins efficaces à Jérusalem. On lit ceci dans Actes chapitre 5 au verset 27. Après les avoir amenés, il les fit comparaître devant le Sanhédrin. Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là. Et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Je reprends. Et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et que vous voudriez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Précisons que ce nom-là, c'est celui de Jésus-Christ. Le nom qui dérange. Le nom qui condamne. Jésus-Christ, c'est le nom qui justifie, c'est le nom qui sauve. Ce nom-là est au-dessus de tout nom, selon Philippiens 2:9. Et puisque ce nom dérange, le Sanhédrin particulièrement, l'adversité, les attaques n'ont pas manqué pour essayer de détruire l'église naissante à Jérusalem. Et là, par tous les moyens, menaces verbales, outrages, emprisonnement, coup de verge et finalement meurtre. Le meurtre d'Étienne. Mais la grande persécution à Jérusalem, au lieu d'anéantir l'église de Jésus-Christ, permet justement aux disciples du maître d'être témoins dans toute la Judée et dans la Samarie, comme l'avait déclaré Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances. Nous pouvons lire dans Actes chapitre 8 au verset 2. Actes chapitre 8 verset 2. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Oui, nous lisons bien. Tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et le verset 4 qui suit précise que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Cela signifie simplement, chers frères et sœurs, que maintenant, les disciples sont témoins de lieu en lieu, dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ce matin, nous allons voir comment l'évangile s'est répandu en Samarie. Et nous sommes au chapitre 8 présentement, Actes chapitre 8. Nous allons lire du verset 5 au verset 25. Actes chapitre 8, verset 5 à 25. Alors je lis. Philippe descendit dans une ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. » Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand il y crut à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu au prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel ou au lien de l'injustice. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne me souvienne rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, il retournait à Jérusalem, en évangélisant plusieurs villages des Samaritains. Amen. C'est un texte riche. Ce texte nous enseigne différents points importants, entre autres le cœur de l'évangile. Ce qui est le cœur de l'évangile. Ce sur quoi doit être centrée toute évangélisation. Le texte nous enseigne aussi qu'on peut passer des ténèbres à la vie, de l'égarement au salut, avec une foi et un cœur qui est sincère. Il nous enseigne également que l'unité de l'Église est très précieuse et nous met en garde contre une foi cupide et de façade. Bien aimé, notre passage commence au verset 5 par le nom d'un disciple qui, à cause de la persécution à Jérusalem, est descendu à Samarie. Il se nomme Philippe, mais ce n'est pas l'apôtre Philippe. Puisque Actes chapitre 8, verset 10 dit clairement que les apôtres sont restés à Jérusalem malgré la persécution. Il s'agit de l'un des sept diacres choisi par l'Assemblée chrétienne au chapitre 6 pour résoudre le problème de distribution aux veuves. Et là, on retrouve ce diacre rempli du Saint-Esprit dans le rôle d'un évangéliste, tant à Samarie que dans le reste du chapitre 8 avec l'eunuque éthiopien, que nous allons voir plus tard. C'est la Bible elle-même qui qualifie ce fidèle frère d'évangéliste. On lit dans Actes chapitre 21, verset 8, « Parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée. Étant entré dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous avons demeuré chez lui. » Donc, Philippe l'évangéliste est bien l'un des sept diacres qui avait été choisi au chapitre 6. Là, il est important de remarquer quelque chose. Le Saint-Esprit n'utilise pas que les apôtres. Même si le livre s'appelle « Actes des apôtres », le Saint-Esprit utilise tout chrétien qui est disposé à se laisser guider par lui. Alors, ayant subi la persécution à Jérusalem, Philippe descend en Samarie. Mais dans quel but? Se cache-t-il pour renoncer à la foi chrétienne qui met sa vie en danger de mort? Non. Car l'Écriture affirme que Philippe descendit à Samarie et y prêcha le Christ. Alors que Philippe est persécuté à cause de Christ, il continue à prêcher ce nom-là, comme dirait le souverain sacrificateur. Le message que Philippe prêche est centré sur Jésus-Christ, le Messie. Philippe ne prêche pas les richesses, les biens matériels, le bien-être social, mais plutôt Christ qui est capable de sauver de la condamnation éternelle du péché. La Bible dit, Philippe prêcha Christ. As-tu donné ta vie au Messie qui peut te libérer de la culpabilité du péché? C'est lui seul qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Philippe ne prêche pas un humain comme Jean-Luc Mambo, qui est un pécheur sauvé par grâce, avec ses imperfections. Philippe ne se prêche pas lui-même, bien que rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, Philippe prêcha le Christ. Celui qui a donné sa vie pour nous. Celui qui peut donner un sens à ta vie, un sens à ma vie. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens chapitre 1, verset 16. Autrement dit, sans Christ, la vie n'a pas de sens, puisque tout a été créé par lui et pour lui. Philippe prêcha Christ, celui qui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux apporter tes péchés au pied de la croix de Jésus-Christ. Recevoir le pardon de Dieu et être réconcilié avec lui. Alors, tu auras la paix divine qui surpasse toute intelligence. Philippe ne prêche pas les miracles et ne s'y focalise pas, bien que de nombreux miracles et de guérisons accompagnent son message. Philippe prêcha Christ, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, 6. Oui, il est le seul chemin qui mène à Dieu. L'unique vérité est la source même de la vie éternelle. Comme nos bien-aimés Athénéa et Josh, les foules de Samarie ont cru en ce message et ont témoigné publiquement de leur appartenance à Jésus-Christ en se faisant baptisé. Waouh! Quelle conversion! Quel changement! Quel engagement! Oui, quel changement quand on considère le passé des gens de cette ville. Avant l'arrivée de Philippe, dans cette ville de Samarie, sa population vivait sous l'emprise de la magie. Un certain Simon provoquait l'étonnement de tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand. Imbu de lui-même, Simon se considérait comme quelqu'un de grand. On pourrait dire qu'il se prêtait les bretelles. Pire encore, les populations s'attachaient à Simon et le qualifiaient d'être la puissance de Dieu. Oui, la grande puissance de Dieu. Waouh! Et pourtant, ce n'était que ténèbres et Dieu n'avait rien à voir avec ses activités occultes. Bien-aimés, cela nous interpelle que toute une ville, du plus petit au plus grand, soit sous l'emprise d'un homme et considère que sa puissance est celle de Dieu. Il y avait une absence notoire de discernement et un aveuglement populaire. Mais ce qui est dommage, c'est que de telles choses, des choses semblables, continuent à se produire de nos jours dans certains milieux religieux où les gens sont aveuglés par des agissements bien orchestrés. Il y a plusieurs mois, l'Afrique du Sud a été secouée par l'histoire d'un pasteur qui aurait ressuscité un mort dont le cercueil a été transporté au temple. Son assemblée, formée de milliers de fidèles, était dans l'étonnement et même quasiment en transe convaincu que Dieu avait fait don de sa grande puissance au pasteur. Mais quel choc ce fut quand quelques semaines plus tard, l'on a appris que c'était un faux miracle. Le mort avait été payé pour jouer ce rôle. Le cercueil, le corbia, tout avait été mis en place pour tromper au nom de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 8, dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est seulement en Jésus-Christ qu'habite toute la plénitude de la divinité. Bien-aimé, je crois personnellement que Dieu, le Dieu que nous adorons, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je le crois. Il est tout puissant et il est toujours capable d'accomplir tout ce qu'il veut, comme il le veut et quand il le veut. Et parce qu'il est tout puissant, il n'a pas besoin qu'on l'aide en inventant de faux miracles, seulement pour se tailler une réputation personnelle de grande puissance. Parlant justement de grande puissance et de machination, les populations de Samarie ont arrêté de faire le culte de la personnalité vouée à Simon le magicien. Lorsque Philippe, l'évangéliste, a prêché Christ, Dieu a fait briller sa lumière dans les ténèbres de la vie de la ville de Samarie. Les foules l'ont cru et se sont fait baptiser pour témoigner publiquement de leur engagement. Et ce fut une grande joie dans toute la ville. Simon a aussi suivi ce mouvement d'ensemble. Peut-être parce qu'il manquait maintenant de public, je ne sais pas. Et il s'est même attaché à Philippe. Ce qui est frappant dans l'histoire que nous venons de lire, c'est qu'aucun des premiers chrétiens de Samarie, malgré leur foi et leur baptême, n'a reçu le Saint-Esprit. Aucun. Ils ont reçu le Saint-Esprit seulement qu'à l'arrivée des apôtres Pierre et Jean, qui ont prié pour eux. Alors, si on fait le bilan de la situation, voici des gens qui ont cru en Jésus-Christ et qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Est-ce que cela signifie qu'après notre conversion, nous devons faire une autre expérience par la prière, avec même imposition des mains, pour recevoir le Saint-Esprit? C'est une question importante. Jésus a promis à ses disciples dans Actes chapitre 1, verset 8, il a promis le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, les croyants au nombre de 120 environ étaient tous ensemble dans le même lieu. Et Actes chapitre 2, verset 4 dit, affirme clairement qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, les apôtres n'ont imposé les mains à personne pour recevoir le Saint-Esprit. D'ailleurs, en parlant du don du Saint-Esprit, Pierre dit ceci à ses auditeurs, précisément dans Actes chapitre 2, verset 39, que cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. En clair, quand Dieu appelle quelqu'un à le connaître, il lui fait aussi don du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu 3000 nouveaux croyants, la Bible ne fait aucune mention d'imposition des mains à ces nouveaux croyants. Le don était spontané. Même chose quand le nombre des disciples a atteint 5000 et ensuite s'est multiplié. Jean chapitre 1, verset 12, que nous connaissons très bien, affirme que tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ et qui croient en son nom deviennent enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, elle, la parole faite chair, Jésus-Christ, de devenir enfants de Dieu. Donc, tous ceux qui croient en Jésus deviennent enfants de Dieu. Cela veut dire qu'ils appartiennent à la famille de Dieu, donc à Dieu. Par ailleurs, Romains chapitre 8, verset 9, précise que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Alors, si on met ensemble ces deux versets, Jean 1, 12, Romains 8, 9, l'implication claire, c'est si une personne reçoit Jésus, elle devient enfant de Dieu. Et Dieu lui donne le Saint-Esprit selon sa promesse. Car s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas à Dieu. Donc, il ne peut pas être enfant de Dieu. C'est clairement ce que l'apôtre Paul déclare dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Il dit « En lui », c'est-à-dire en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 13. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Cela veut dire qu'on reçoit le Saint-Esprit quand on croit en Jésus-Christ. Pas besoin d'une autre expérience spéciale de baptême dans le Saint-Esprit. Mais la question reste posée. Mais pourquoi donc Dieu choisit de retarder le don du Saint-Esprit dans le cas particulier des chrétiens, des premiers croyants de la Samarie? Ça, c'est frappant. Il est important de garder en tête, bien aimé, que nous sommes au début de l'expansion de l'Église. L'évangile commence chez les Juifs. Et c'est bien dans la capitale juive, à Jérusalem, qu'a lieu la Pentecôte, le premier baptême du Saint-Esprit. Et Dieu, dans son plan, veut répandre l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire chez les païens, chez les non-juifs. Donc, de chez les juifs, Dieu va répandre l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, chez les païens, chez les non-juifs. Mais entre les juifs et les païens, il existe un peuple intermédiaire, les Samaritains, composé d'un métissage de juifs et de païens, avec un mélange d'adoration et de croyance. Christ a dévoilé son plan pour bâtir son église quand il a dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie. » Donc, ça c'est côté juif. Pardon. À Jérusalem, dans toute la Judée, ça c'est côté des juifs. En Samarie, ça c'est dans le peuple, au niveau du peuple intermédiaire, mélange païen-juif. Et enfin, jusqu'aux extrémités de la terre, côté des non-juifs, des païens. Il existait déjà une tension, une rivalité entre les Juifs et les Samaritains. Les Juifs n'avaient aucune considération pour les Samaritains. Ils les haïssaient même. Et les Samaritains leur rendaient l'appareil. Cette tension même se remarque dans Jean chapitre 4, au verset 9. Quand la femme samaritaine s'adresse à Jésus, elle dit ceci, « Comment toi, qui est juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine ?» Ça, c'est juste pour une question d'eau. Hein? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Plus loin, cette même samaritaine va mettre en lumière la rivalité religieuse qui existait déjà, concernant les lieux même d'adoration entre les juifs et les samaritains. Jean, chapitre 4, verset 20, la femme samaritaine dit ceci, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites, c'est-à-dire vous les juifs, que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. » Bien-aimé, Dieu, dans son immense sagesse, voulait que son église tout entière soit une église qui est unie. Pas une église à saveur juive et une branche séparée qui serait l'église des Samaritains. Si les premiers chrétiens samaritains avaient reçu le Saint-Esprit indépendamment des apôtres de Jérusalem, cela pourrait conduire à alimenter cette rivalité qui existait déjà et nuirait à l'Église naissante. En retardant le Saint-Esprit aux premiers disciples samaritains, Jésus-Christ préserve l'unité même de son Église. En recevant l'Esprit par l'imposition des mains de Pierre et de Jean, les chrétiens samaritains apprennent à se soumettre à l'autorité apostolique de Jérusalem. Également, les apôtres eux-mêmes sont témoins que Dieu a choisi d'intégrer à son Église les Samaritains. Et ce ne sont pas des chrétiens inférieurs ou des chrétiens de seconde classe, mais bien des membres du corps du Christ, comme ceux qui sont à Jérusalem. Et c'est la même chose qui va se passer au chapitre 10 de Actes, quand les premiers païens feront leur entrée aussi dans l'Église. Nous allons voir que Dieu va donner une vision spéciale à Pierre. Et c'est même en présence de cet apôtre que les premiers païens vont recevoir le Saint-Esprit, juste pour conserver l'unité de l'Église. C'est très significatif. Christ tient à l'unité de l'Église qu'il bâtit, composée de tous les vrais croyants formant le corps du Christ. Alors on comprend très bien pourquoi Pierre et Jean imposent les mains aux Samaritains qui avaient déjà reçu Jésus-Christ pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais lorsque Simon le magicien vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains, son attitude révéla sa foi de façade et l'état même de son cœur. Simon apporta promptement de l'argent pour avoir ce pouvoir. Combien il a apporté pour séduire les apôtres, je ne sais pas. Simon n'a pas changé. Il veut ce pouvoir pour redorer sa réputation. Il veut acheter les apôtres et posséder ce nouveau truc-là qu'on appelle le Saint-Esprit. Pour Simon, l'Esprit de Dieu serait un nouveau procédé magique pour épater le monde et faire du profit. Simon veut avoir le pouvoir d'imposer les mains et d'offrir le Saint-Esprit, certainement aux foules qui vont encore l'aduler. Comme si le Saint-Esprit est une chose dont on peut devenir propriétaire. Et même qu'on peut distribuer à sa guise. Mais il apprend à ses dépens que le don de Dieu, la personne du Saint-Esprit, ne s'acquiert pas à prix d'argent. Bien-aimé, cela doit nous interpeller. Et cela doit interpeller tous ceux de notre génération, de notre époque, de nos jours. Je voudrais conclure pour dire que le Saint-Esprit n'est pas un business. Le Saint-Esprit n'est pas une opportunité d'affaires pour s'enrichir. Faisons aussi attention à ne pas développer une forme d'allergie au Saint-Esprit à cause des phénomènes de contrefaçon, au risque de vouloir nous-mêmes contrôler l'Esprit de Dieu. Bien au contraire, en tant que disciples de Christ et temple du Saint-Esprit, aspirons à être remplis par lui. Travaillons à l'unité de l'Église de Jésus-Christ et pour la gloire du roi des rois. Que l'Éternel nous éclaire et nous donne son discernement. Amen.
Merci, mon frère Jean-Luc, pour ce message.